Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mademoiselle.com.
Mademoiselle.com.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai le droit de pas vraiment travailler.
C'est vrai.
Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais.
C'est normal. C'est laisse-moi kiffer.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis ?
J'ai plus envie.
Daddy.
Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Ça peut plus être agréable ici, merde !
Yo, Guillaume.
Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable.
Je suis idiot.
Mais non !
À La Réunion ! À l'île Maurice !
J'avais envie de kiffer, bah m'écoutez pas.
Bonjour.
Adieu.
Bonne année, bon été, il fait chaud.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 194 de Laisse-moi kiffer. Vous avez peut-être loupé le live de samedi dernier. Et c'est dommage parce que c'était super bien. On a fait la chenille, on a parlé de spéléologie.
Ah, c'est celui qu'on fait.
Ben oui,
oh là là,
c'est, voilà, exactement. Je regarde tout le monde me regarde un peu paniqué.
Le live n'a pas encore eu lieu.
Le live n'a pas eu lieu. Nous sommes stressés, nous ne savons pas. Peut-être que ce sera un fiasco. Bonne nouvelle, en tout cas, vous retrouverez ce live LMK 200 si vous n'avez pas pu y assister. Et même si vous avez pu y assister, que vous êtes des ultras, je ne sais pas. Vous le retrouverez dans quelques semaines sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude et ce sera l'épisode 200. Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent. Personne,
ce
en
sera
fait.
Pas vraiment l'épisode 200, non ?
Alors, c'est pas l'épisode 200 au moment où on fait le live, mais au moment où il sort sur les plateformes.
Ah,
c'est un podcast, et oui. Et ce sera aujourd'hui un épisode de la retrouvaille, puisqu'on retrouve la team récurrente, mais aussi, non pas un, mais deux poticiens. Ce dont on va peut-être beaucoup parler
peut-être
dans cet épisode.
À tout hasard.
Voilà, du coup, vous entendez peut-être une acoustique un peu différente, parce que vous êtes tous ingénieurs du son, on ne sait pas. C'est parce qu'on tourne tout simplement comme des bisous dans le bureau où on n'entend pas les travaux, puisque une personne a décidé de faire des travaux juste en dessous du studio de podcast. Mais j'enchaîne sans plus attendre sur une question « Le monde veut savoir » que je ne vous ai pas adressée en avance, tout simplement parce que je suis incompétent. Et cette question, c'est « Quelle star sur le déclin êtes-vous ? » Je commence par toi, Kalindi.
Ah non, faut pas commencer par moi, je sais pas du tout. Ah si, si, je sais.
Évidemment.
Alors, en fait, elle était sur le déclin jusqu'à ce qu'elle fasse une apparition à Cannes, pas plus tard que hier. Hier, on était le combien ?
On était le 18.
Le 17 mai.
Hier, on était le 18.
Le 18 mai.
Tout le monde vous ment.
Eva Longoria.
Pas du tout sur le déclin.
Ah bon, et tu l'as vue dans quoi récemment, par exemple ?
Mais elle n'est pas devenue genre productrice.
Tous les soirs.
Elle est productrice, oui, mais on la voit plus.
Et mais en parce vrai, qu'elle gagne trop de thunes.
Elle a eu son âge d'or, tu vois. On la voyait partout. Aujourd'hui, elle est productrice, en effet. Je crois même qu'elle a réalisé 2-3 épisodes d'une série qui sortira bientôt. Et aussi, elle est Géry L'Oréal, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Et je suis.
Oui, elle fait des pubs sur YouTube. Où elle se trouve les racines et tout, elle est trop mignonne, trop adorable.
Je l'adore. Et moi, j'adore Eva Longoria, et principalement parce qu'elle fait du mini trampoline. Et genre, moi, je la suis sur Instagram.
Elle fait quoi ?
Du mini trampoline
en
comme ma
fitness.
Mère. En mode fitness de ouf. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre Instagram, j'ai une vidéo d'Eva Longoria qui est sur son mini trampoline face à la mer et qui fait des exercices différents. Qu'il a. Alors là, je fais tel enchaînement et j'adore. J'adore. J'espère, comme Eva Longoria, atteindre mon apogée de la célébrité pour ensuite ne plus rien faire que des publicités pour les cheveux et du mini trampoline. Je trouve que c'est pas mal.
C'est un déclin serein.
C'est un déclin serein, non, mais en effet, Anthony a bien fait de préciser, elle est productrice aujourd'hui, ce qui est un vrai métier, en fait.
surtout que, je me dis, ça doit être extrêmement gratifiant aussi de passer d'actrice à productrice. Non pas qu'il y ait de sous-métier, et actrice, c'est un super métier aussi, hein, mais... Enfin, avoir fait les deux côtés de la caméra et des productions, c'est génialissime.
Non, mais c'est une artiste complète, elle a 1000 casquettes, on l'adore, je la trouve super. Je trouve qu'elle a l'air hyper sympa, cette zouze en plus. Donc j'ai envie d'être Eva Longoria, je trouve que c'est cool. Et en plus, hier, elle avait une très belle robe, alors que d'habitude, je trouve qu'elle s'habille n'importe comment. Et hier, elle avait une très jolie robe.
Elle n'a pas les mêmes goûts, mais d'accord.
C'est vrai, tu trouves qu'elle s'habille bien, Eva Longoria ?
Non, non, je trouve qu'elle s'habille pas bien et que sa robe était affreuse. Mais...
la noire,
subjectif.
La noire, là ? On parle de la noire ?
Oui, oui, oui.
Moi, je trouve que par rapport à ce qu'elle porte d'habitude,
c'est mon. moins atroce.
C'est chouette. Parce que d'habitude, c'est un peu la cata. Quoi. C'est souvent la cacophonie.
C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Un podcast positif. Anthony, quelle star sur le déclin es-tu ?
Mais il faut que ce soit une star d'une discipline en particulier ?
Non, pas particulièrement. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut décliner. C'est ça l'avantage.
Mais
de
ça
la
veut
vie.
Dire quoi, déclin tu...
Bah, ça veut
est-ce
dire,
que c'est la fin de vie ou est-ce que c'est la
ça
fin
veut dire,
de carrière
t'es pote avec Michel Drucker et tout le monde te regarde avec un regard émotion sur les plateaux télé, parce que c'est peut-être la dernière fois que t'es là et on sait pas trop pourquoi t'es invité, quoi. C'est qu'il y a un livre Génération sur toi qui est sorti. Genre Génération Goldman, tu vois. C'est pas pour dire Goldman est mort, mais.
J'aurais dû dire Goldman.
Bah, j'allais dire, je suis un peu Affida Turner parce que. Ouais. En fait, au départ, j'allais dire François-Xavier de Secret Story. parce que,
merde,
à l'époque où il était. Où cette émission. Où en fait, la saison. C'est un candidat télé-réalité, donc Secret Story. Et à l'époque de sa saison, je sais pas laquelle c'était, en fait, j'ai reçu le premier prime plein de SMS de gens disant tu passes à la télé, il y a ton sosie. Et j'étais archi vexé parce que je le trouve plus laid que moi. Bref.
Je sais même pas
et, bah, à moi, au moins beau. Désolé. Mais.
J'arrive pas à l'imaginer.
C'est vrai.
Non, mais le truc, c'est. Oh, merci, Aïda, stop. Non, mais le truc, c'est que d'un point de vue personnalité, expression, c'était un mec très folle, très efféminé et tout. Donc, j'avoue qu'il y avait beaucoup de ressemblances et aussi un peu arrogant. Et là, j'étais un peu vexé qu'on me compare à lui. Mais bon, bref. Et en gros, je me suis beaucoup attaché à ce personnage sans même regarder Secret Story, mais juste, on m'envoyait tout le temps des trucs qu'il avait fait ou dit ou chanté. Et à chaque fois, j'étais là, bon, j'avoue, c'est marrant et tout. Mais le truc, c'est qu'après Secret Story, il avait fait un truc qui a bidé de fou qui s'appelle Carrie VIP.
Ça avait été annulé, non?
Ça avait été annulé en cours de la première saison. Genre, en gros, Carré VIP, c'était une émission de télé-réalité où il y avait des nobody et des gens célèbres, soi-disant, qui se retrouvaient enfermés. Et voilà. Et en fait, le but, c'était de faire la star alors que t'étais pas une star. Et il y avait François-Xavier qui se pétait encore plus. Il se la pétait encore plus. Bref. Et après ça, donc, ça sentait un problème psychologique. Enfin, c'était une personne qui semblait clairement en détresse. Ouais. Et après ça, en fait, on sait pas si c'est un accident ou un suicide, mais a priori, ce serait un suicide. Il a été retrouvé mort sur un bord de route après une soirée arrosée. Et clairement, son secret dans Secret Story, c'était « Je suis fils de millionnaire ». Enfin, il y avait clairement un besoin de reconnaissance. Bref, je m'égare parce que je voulais juste dire « Affida Turner ». En gros, François-Xavier, parce qu'il me ressemble et que je me suis beaucoup reconnu en lui et que sa trajectoire m'a beaucoup attristé. Et je trouve qu'elle est très représentative, d'un problème qu'on a autour de la santé mentale en France, de la reconnaissance de l'importance de la santé mentale, qui est souvent mise de côté et délégitimée, alors qu'en fait, ça peut... créer des problèmes très graves et cette trajectoire de François-Xavier est très emblématique de ça. Et Affida Turner, même chose, en fait, elle est tournée sans cesse en dérision, alors que en fait, je pense qu'elle a clairement des soucis. Mais je ne suis pas psy, c'est pas ma place de dire ça. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit aussi délégitimée en permanence, bah, je sais pas, ça m'interroge et ça me touche. Et en fait, je me reconnais beaucoup dans le côté complètement taré et complètement pas reconnu comme légitime. Et je pense que c'est quelqu'un de très créatif qui est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'était une longue tirade pour dire.
Je connais une journaliste qui s'appelle Kalin Zormfel qui a écrit un long papier sur Affida Turner. N'hésitez pas à le lire.
Un papier très bien, j'avais adoré ce billet.
Merci beaucoup.
Et très bien écrit. Et en plus, oui, je pense que t'as totalement raison dans ce papier qu'on mettra en description de cet épisode.
Mettrai, hein, vous êtes charmant.
C'était un ou un personnel pour dire Mathis. Grosso, car je sais prononcer son nom de famille.
C'est gentil, merci. Seule personne de France.
Ça
hein,
fait
vraiment.
Une personne sur quatre.
Mais oui, c'était un papier très bien, même si Affida Turner t'a fait de remontrances derrière.
Oui, après, il y a eu un bail extraordinaire où Affida, Entreprise ou Entertainment, je sais plus, m'a fait un message vocal pour me dire qu'il fallait que je change mon titre parce que ça portait atteinte à sa crédibilité. Et donc, s'en sont suivis quelques messages vocaux assez particuliers. Voilà, mais tout va mieux avec Affida.
Vous êtes réconciliés ?
Nous sommes moyens réconciliés. Elle a dit qu'elle allait nous assigner en justice parce que je ne voulais pas changer mon titre. Je lui ai dit, rappelez-vous de la liberté de la presse. Et enfin, bon, voilà, ça s'est arrêté là.
Ok. Aïda, quelle star sur le déclin es-tu ?
Ah, mais je connais aucune star sur le déclin. Enfin, les seules que je connais, je les déteste, tu vois. Donc, je vais pas dire.
Tu peux être une personne que tu détestes, hein ?
Christian Clavier.
Mais c'est qui ?
C'est vrai qu'il est sur un long déclin, mais c'est pas un déclin genre j'ai plus de carrière. Il a une carrière, la carrière va bien financièrement,
mais la carrière
va mal artistiquement, tu vois. Et il y a un déclin là-dessus, tu vois.
Oui, je pourrais être n'importe quel vieil acteur français que je connais pas, mais bon, j'arriverai pas à le citer, j'arriverai pas à justifier pourquoi.
Une chanteuse peut-être.
Ce qui compte, c'est l'énergie.
Oh, j'aurais dû répondre Rihanna. Non, mais je rigole. Elle est pas du tout sur le déclin. Elle est juste plus en train de faire des albums, mais.
J'ai posé une excellente question, je suis très très fière de moi.
Non, mais si je devais, je pense, alors, bon, on va voir ce que vaut cette réponse. Mais c'est la seule personne sur le déclin vraiment qui me vient en tête en ce moment, c'est Nicki Minaj, qui nous fait un déclin catastrophique. Nicki Minaj que j'ai aimé d'amour pendant des millénaires, notamment parce que c'est une excellente rappeuse américaine qui a fait plein de choses très très bien il y a quelques années et qui maintenant passe son temps à faire des rants sur Twitter où elle dit des choses terrifiantes et elle protège des gens qu'elle connaît qui sont des pédocriminels. Enfin vraiment, il n'y a rien qui va, donc vraiment déclin catastrophique. Et au Met Gala, elle avait une tenue immonde.
Je confirme.
De casquette gavroche en simili-cuir et leggings et en même temps une robe de bal en haut. Enfin vraiment, tout était catastrophique.
Wow. Après, elle est encore invitée au Met Gala. C'est pas le pire des
déclins. Non, mais c'était la dernière, parce que là, vu son outfit, elle le sera plus jamais. Enfin, c'est pour avoir une meuf mal habillée qui dit des trucs border tout le temps. Ça, enfin, voilà, border,
oui, on a déjà Gérard Depardieu.
Pire que border. Mais j'ai pas de citation exacte qui me vient en tête, du coup, je peux pas tout qualifier. Je sais juste que mon cerveau a dit cancel. Et qu'après, je l'ai unfollow sur Twitter.
50% des infos.
Ce qui est la punition ultime de ma part, sachez-le.
Heureusement que j'ai pas de Twitter. J'aurais trop mal que tu me supprimes de Twitter.
Je te bloquerai même.
Et toi, Mathis ?
Alors moi, j'avais envie de dire Christophe, mais il est décédé, donc pareil, mauvais goût. Mais Christophe, c'est...
Non,
c'est
les mots bleus, Aïda !
C'est un mec de...
Non, personne. Non.
De Popstar, la Nouvelle Star, un truc
non,
comme ça.
Non, mais ça a été repris par un chanteur de la Nouvelle Star, effectivement. Ah. La reprise était sublime. Mais non, Christophe,
j'aurais
c'est...
J'aurais dû dire Stanislas, putain.
C'est qui, Stanislas ?
C'est un mec qui chante
la belle
des chansons
de
sur le manège. J'ai tout.
Je me rappelle.
C'est la personne qui venait sur des plateaux télé chanter des trucs avec Calogero et j'étais en mode je sais pas qui je déteste plus. C'était horrible, il y en avait juste un avec des cheveux et un sans.
Moi j'avoue, Calogero, l'ascenseur, ça m'a fait kiffer pendant longtemps.
Encore aujourd'hui, je peux en crier en faisant ma vaisselle sur l'ascenseur.
Ouais, je comprends.
Mais du coup, je voulais être Christophe Non, mais vas-y.
Non, j'allais juste dire créditer la personne, c'est Thierry Amiel, la personne qui a fait le reprise.
Thierry Amiel,
rappelez-vous que c'était Christophe qui avait fait
mais
la reprise.
Oui, Thierry Amiel.
Non, Christophe, c'est.
Il était là avant.
Il est mort, ouais.
Attends, Thierry Amiel, c'est pas celui qui a fait Undo Stress, ça c'est l'autre.
Quoi ?
Mais tu sais, il y avait un chanteur français qui a participé à Undo Stress, c'était le cousin de Sylvia.
Non.
Donc la sœur de Penélope Cruz.
Je vais mourir, trop
intéressant. Mais oui, attends.
Moi, je suis né il y a 4 jours, donc j'étais pas là.
Alors, il y avait Thierry Amiel, il y avait deux mecs emblématiques, et il y avait un autre gars qui avait des cheveux en forme de pique. Et.
Titoff.
Jonathan Serrada.
Oh, j'étais amoureuse de lui en 6e.
Jonathan Serrada.
C'était
et donc,
passion.
C'était le cousin de Sylvia, donc Monica Cruz. Et c'était ma passion, parce que tout le monde était genre amoureux de lui, et genre surtout Lola. Voilà.
Pardon, Mathis,
tu es
Christophe,
non, bah, je peux pas parce qu'il est mort, donc ça marche pas. Mais tout simplement, j'aimais bien l'énergie de Star sur le déclin qui a des lunettes un peu teintées et qui se déplace un peu lentement avec une équipe autour. Enfin, j'aime bien cette idée, mais c'est pas vraiment moi. Non,
ah bah
moi,
si, il y a le pédophile, comment il s'appelle
Quoi
Le chanteur pédophile.
Mais j'ai pas envie de m'identifier à un chanteur pédocriminel, Kalindi.
Pour le coup, c'est un vrai déclin, quoi.
Quelle horreur. Non, tout simplement, la dernière fois, on a eu un cours de journalisme, on nous a demandé de réaliser une nécrologie et pour pas tout simplement qu'on puisse aller pomper sur internet, bah ils ont choisi de tuer de manière imaginaire une personne, mais comme c'est le cas dans pas mal de rédacs, il y a plein de rédacs où il y a des nécrologies qui sont prêtes au cas où la personne meurt, comme ça premier sur l'info, boum.
Jacques Chirac, je pense que tout le
monde
était
prêt. Tout le monde était prêt, voilà, c'est ça. Et du coup, la dernière fois, ils nous disent boum, Yoko Ono est morte, et je dis non. Et après, j'ai eu un moment de attends, elle était pas déjà morte? Et en fait, du coup, bah plonger dans la vie actuelle de Yoko Ono. Donc Yoko Ono, petit rappel, c'est une artiste plasticienne, scénariste, personne un petit peu barrée, qui a grandi à New York et qui a été surtout connue pour être la compagne de John Lennon, avec lequel elle a créé Imagine, et pour lequel elle a été créditée très très tard après. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin, sur son déclin, et ce que je trouve très drôle, et j'espère que je deviendrai cette personne, c'est qu'elle est toujours aussi pétée, peut-être même plus. Et maintenant, en fait, son Twitter, tous les jours, c'est des phrases d'inspiration. J'en sais rien, des trucs en mode, regarde-toi dans le miroir, c'est le miroir qui voit ton avis. Enfin, vraiment, elle sort des conneries.
Incroyable, je crois qu'elle était morte.
Bah, moi aussi, et j'étais en mode, bah, d'après Twitter, non. Et tous les jours, vraiment, mais tous les jours, je me dis, bon, elle doit plus avoir grand chose à branler. Elle fait ses petits tweets, comme ça, et je trouve ça incroyable. Et c'est une brave petite dame, je l'aime beaucoup, et je
un
me dis, je veux décliner comme
Ono.
Ça. Exactement. Mais je vous invite à aller voir le compte Twitter de Yoko Ono, vous verrez que les citations sont pépites. Et voilà, je me suis dit, c'est pas le pire des déclins.
Non, c'est très
vrai.
Bien comme déclin, Yoko.
C'est classe.
C'est un déclin rigolo.
Plus classe que Nicki Minaj. Le podcast de la distinction et des gens vivants.
Est-ce que vous avez des commentaires?
Oui.
Oui.
Bah c'est bien. Kalindi.
Alors, hello Kalindi. J'écoute le dernier épisode de LMK dans une tente à 5h du matin car j'ai été réveillée par des élèves de 4e que j'encadre en camping. Bref, j'ai besoin d'intervenir car tu viens de me donner un immense ascenseur émotionnel. Ravi que tu portes le pull de l'ASSE et que ton mec soit d'Orec. Ça, c'est vraiment incroyable. Par contre, Saint-Étienne, c'est dans la Loire et pas dans la Haute-Loire. Un peu de respect. Donc, j'ai encore dit de la merde sur la géographie française.
Quoi ?
Non, laisse-moi kiffer et je m'en excuse. Voilà.
Waouh, ok.
Moi aussi, j'ai un commentaire géographie.
Ah, bon, alors attendez, on enchaîne sur la géographie.
Pardon, tu veux y aller, Anthony ?
Non, vas-y.
Battez-vous.
Parce que je me suis dit que c'était approprié. Moi aussi, j'ai un commentaire très court de Johanna qui me dit « Bonjour », de manière très solennelle, juste pour te dire merci d'avoir prononcé Bourg-en-Bresse correctement. Signé une LM Crado de l'un.
Parce qu'on ne dit pas Bourg-en-Bresse, du coup.
Non, on dit Bourg. C'est un cas.
Toutes ces choses
qu'on savait pas. De l'un.
J'arrête d'animer ce podcast. C'est trop. C'est trop.
Bisous à tous les gens qui nous écoutent de Bourg-en-Bresse. C'est pas ma ville préférée sur Terre, mais s'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, elle remonte dans mon estime.
Trois.
Quoi ?
Trois personnes.
Bah écoute, déjà il y a Johanna, et on l'aime.
Bah ça fait déjà une, c'est vrai. Il n'y avait plus que deux à trouver. Trouvez-nous les deux autres personnes qui nous écoutent de Bourg-en-Bresse, c'est ça ?
Bien prononcé.
J'ai bien dit ?
10 sur 10.
Super. Anthony, c'est quoi ton commentaire ?
Eh bien, c'est des photos de chats et des vidéos de chats trop mignons et mignonnes. Voilà, c'est pas très élaboré comme commentaire, mais il y a Dia qui serait bergère, qui m'a juste envoyé des photos sans contexte. C'était, et des vidéos qui sont absolument adorables.
Attends,
je crois même qu'il y a une
bergère.
Vidéo avec un chat et un kangourou, genre. Je suis trop choquée. Mais
est-ce
peut-être
que le kangourou porte le chat dans sa poche ?
Non, mais il lui fait un câlin, visiblement. Et du coup, j'aimerais beaucoup avoir plus d'informations. Tija, si tu m'entends, je veux bien plus d'infos sur ta vie et tes chats. Et est-ce que c'est vraiment un kangourou ? Voilà, donc non, ce n'est pas du spam.
Est-ce que c'est un humain déguisé en kangourou ?
Ah, bizarre. Et il y a aussi Ama qui m'a envoyé des photos de ses chats, qui me dit « Je suis un peu en retard dans les épisodes de LMK car je ne veux pas voir Mimi partir. » Mais voici mes bébés. Donc voilà, désolé Ama, mais Mimi est partie depuis longtemps, mais t'entendras sûrement cet épisode d'ici quelques mois. Toi, bon. Mathis, t'as des commentaires ?
J'ai des commentaires et j'étais justement en train de retrouver le nom d'une des personnes. En fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes parce que j'ai été au théâtre la semaine dernière, pour le coup. Et comme souvent, quand je vais au théâtre, je fais une pseudo-critique à chaud qui est juste moi en train de râler et de faire le vieux « gni 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 ». Et du coup, j'ai discuté avec une première personne dont je ne retrouve pas le nom, ce qui m'énerve beaucoup, qui travaillait au théâtre de Caen, parce que j'ai vu une pièce qui était donc Richard III de Shakespeare.
Richard III, putain, c'était là-dessus que j'ai fait mes TPE, vous le saurez.
Oh waouh.
Et bah c'était long, c'était 3 heures et quelques, enfin ouais, je crois que c'était à peu près 3 heures, et c'était donc Martial Di Fonzombo avec Mathias, la moitié des infos, Langoff.
Tu peux inventer et on pourra pas te corriger.
Toujours est-il que du coup c'est une mise en scène qui était une reprise d'un truc qui avait été fait dans les années 80, il y avait plein de trucs qui étaient un peu genre, c'était un peu bancal sur les bords et tout. Et donc en fait j'ai discuté avec cette personne, j'aimerais retrouver ton nom et je suis désolé, crie-moi dessus quand tu entendras cet épisode, c'est ma faute. Tout simplement parce qu'elle avait, vu un petit peu la création, enfin la recréation du projet et que du coup elle avait plein de retours dessus, elle avait plein d'anecdotes et elle m'a fait plein de vocaux. Mais ce n'est pas le commentaire que j'ai retenu, je fais simplement une petite mention. J'ai aussi discuté avec Terreur Nocturne, ce n'est pas non plus le commentaire que j'ai retenu, mais je vous en parle plus tard. Donc si j'oublie, rappelez-le moi parce que ça sera en lien avec mon kiff.
Ok, et... Terreur Nocturne.
Voilà, exactement.
On peut juste crier dans le micro.
Et là, tout simplement, le commentaire que j'ai choisi, c'est celui de Lucie IE. Coucou, c'est une LM crado de la première heure, un petit com pour te dire merci d'avoir repris le flambeau, mais surtout merci pour tes playlists, j'espère que celle se concentrer à s'en exploser les tempes va enfin permettre de réviser mes partiels, ce que je suis censé faire pendant que je t'écris ce message, vous êtes les meilleurs et mon kiff forever, merci. Je le trouvais court mais très mignon.
Trop
bisous Lucie, courage pour tes partiels.
Ouais, courage à vous et tout simplement vous dire que moi aussi je devrais écouter plus souvent cette playlist. Je n'ai pas d'anecdote de star, en revanche, j'ai un message boubou, à moins que vous ayez une anecdote de star.
Non.
Bon, ben voilà, comme ça, ça règle le problème. Ah, j'ai croisé une star récemment. Ouais, fin de l'anecdote, je sais plus qui c'était.
On a vu Frédéric Becbédé passer devant nos bureaux.
On le hait.
Pas contente, ça
c'est
a gâché
une
ma journée. Voilà.
Bah voilà, on a une anecdote, super. Tout est fait, hop, message boubou.
Salut LMK.
Pardon, on est deux. On voulait faire un message boubou. Un message
boubou.
Non, réré.
Réré.
Un message bourré. Alors, on voulait vous dire, enfin, elle écoute un petit peu moins. Et moi, j'écoute beaucoup. Et en fait, je vous aime beaucoup.
Beaucoup.
Il faut jamais le mettre. Donc, en fait, je vous aime tous. Allez que je t'aime, mais en fait, j'aime beaucoup les gens qui sont toujours présents. Genre Mathis, Mimi, Anthony et tout ça, voilà. Vos kiffs sont toujours très, très variés. Et j'aime beaucoup. Et puis même si, genre, c'est des kiffs que je ferais jamais.
Moi aussi, j'aime beaucoup, hein.
Ouais, on fait du crochet en vous écoutant. Vraiment, on fait des super beaux tops, hein, Mathilde?
Ouais, ils sont trop beaux. Trop sexy avec.
Là, c'est le nouvel an, mais en fait, c'est un peu triste. Mais il faut pas le dire à notre copine. Ok, LMK, je voulais vous dire que je vous aime trop, trop, trop. Il est 59, du coup, ça se trouve, je vais bientôt partir. Mais je suis désolée, les messages sont un peu discontinus. Mais vraiment, genre, j'adore. Il y a des moments où je vous écoute en boucle pendant vraiment des heures. Et il y a des moments où je vous écoute pas pendant deux semaines. Et après, je reprends tout. Et c'est vraiment trop, trop bien. Et du coup, je vous aime beaucoup, beaucoup. Vous êtes vraiment super fort. J'adore vos kiffs, Mathis. C'est ouf parce que ça change vraiment beaucoup des messages de d'habitude. Enfin, des kiffs de d'habitude, je trouve. Et pourtant, t'es ultra intégré, tout ça. Et du coup, je vous aime beaucoup. Juste, j'ai oublié Kalindi, mais vraiment, genre, c'est ma préférée, préférée. Du coup, je vous aime tous. Voilà, voilà.
Merci beaucoup pour ce message très mignon.
Ce message chaotique.
Un peu discontinu, c'est vrai, mais en même temps, vous y êtes mis à deux, ce qui n'est pas facile. Mais...
mais est-ce qu'elles ont dit qu'elles étaient en train de faire du crochet?
Je crois qu'elles
font du crochet. C'est ça, elles c'est font ça que du vous crochet. Faites quand vous picolez.
Mais elles sont au nouvel an, surtout, c'est ça? Ça n'a
mais
aucun
oui,
sens.
Ah, mais c'est un vieux message boubou. Merci les filles.
Bah oui, c'est un message boubou qui date, parce qu'encore une fois, on en a beaucoup, beaucoup à trier. N'hésitez pas à me relancer si vous estimez que votre message boubou n'a toujours pas été diffusé et que ça fait longtemps et que c'est pas normal. Il est possible! Possible qu'il se soit perdu en route car notre compte Instagram est saturé de vous ivres. Absolument.
Ça a plus de succès que l'anecdote de star, j'ai l'impression quand même.
Mais parce que les gens croisent plus d'alcool.
C'est plus facile d'alcool que croiser une star.
Exactement. Mais parfois c'est lié. Hein. C'est parfois. Ouais, absolument. Hein, Kalindi?
Tout à fait. C'est ma spécialité.
C'est le moment, je crois, d'enchaîner.
Vous savez que d'ailleurs, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais
vas-y.
J'ai vraiment un souci avec Finnegan Oldfield, qui est donc un acteur français que j'aime beaucoup. Et en fait, dans ma tête, il y a un truc qui se passe mal à chaque fois. Je crois toujours que c'est Norman fait des vidéos. Et en fait, à chaque fois que je passe devant une affiche, mais ça me fait ça depuis des années. Et genre, l'autre jour, je passe devant l'affiche de Coupé, qui est le nouveau film de Michel Hazanavicius, qui est excellent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Il est dedans. L'autre jour, je passe devant l'affiche, je fais, je suis fou là, Norman. Et après, j'étais là, mais non, enfin, c'est Finnegan Oldfield, tu le sais très bien.
Ils se ressemblent vaguement.
Tu sais très bien que c'est pas la même personne, ils se ressemblent même pas tant. Mais dans mon cerveau, il y a un truc qui a pas imprimé, je crois toujours que c'est la même personne.
Alors, voilà. Il y en a un qu'on adore et un qu'on déteste. Quoi.
Exactement. Et en fait, un jour, j'étais jury d'un festival d'horreur. Et donc, j'étais censée être un peu connaisseuse de mon sujet. Et je vois Finnegan Oldfield arriver. Et je dis à mon voisin, c'est un journaliste du Monde, je fais, qu'est-ce qu'il fout là, Norman fait des vidéos. Et il me dit, c'est vraiment Finnegan Oldfield. Et voilà. Voilà, je crois que je l'ai déjà raconté dans LMK.
C'est pas grave, c'est toujours un plaisir.
Et une vie de bolos en même temps.
Tout à fait.
C'est le moment d'enchaîner sur un jingle qui cette fois ne sera pas en live, mais ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau encore jingle de Marine Normand qui en a enregistré 507 environ. Et quand elle sera très très connue, ça se vendra à prix d'or. Mais en attendant, on les diffuse de manière éhontée dans ce podcast. Et c'est parti, jingle.
Les petits kiffs au soleil, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux et que le ciel est beau. Et nanana, les petits kiffs au soleil. J'ai raté cette partie-là, je m'excuse.
Merci Valentin.
C'est toujours plus chaotique. Kalindi, quel est ton kiff?
Mon kiff se trouve actuellement sur mes genoux. Vous ne pouvez pas la voir. Mais j'ai récemment co-adopté une petite chienne avec ma maman. Ça fait une semaine que je l'ai au moment où on enregistre ce podcast. Donc un bout de temps avant que vous écoutiez cet épisode. Attendez, je fais une photo avec Mathis.
Vous aurez cette photo.
Je me suis pris un vent.
Et celle du canapé de Kalindi un jour aussi.
Ah, mais je voulais pas envoyer.
Mais il le faut.
Je vais envoyer immédiatement.
On peut mettre le
podcast.
Chien sur le canapé.
Oui.
Oui, oh là, mais oui, c'est possible.
Crossover.
Et donc, ça fait longtemps que ma mère a envie de prendre un chien, sauf que ma mère hésitait parce que la moitié de la semaine, elle travaille, qu'elle peut pas emmener son chien au travail. Tout le monde n'est pas aussi cool avec les chiens que la rédaction de mademoiselle.com et humanoïde en général. Donc, ma mère était là, comment je vais faire? Je lui dis, bah écoute, si tu veux, tu prends un chien et moi, je m'en occupe la moitié de la semaine et on fait une co-adoption, quoi. Et c'est ma mère qui a choisi cette petite chienne que j'ai sur le genou qui s'appelle Romy, que j'appelle personnellement Jenny Flair ou Barnababe. Et ça dépend de son humeur, de la mienne, etc. Et en fait, c'est une petite chienne. On voulait adopter un chien dans un refuge, mais en fait, on a trouvé sur un site un monsieur qui donnait ce chien à gratuit, tout simplement parce qu'en fait, la chienne qu'ils avaient avant est le même modèle que mon chien, donc c'est un Spitz. C'est un Spitz allemand bleu merle. Et en fait, ce petit chien s'était fait écraser devant leurs yeux. Ça a traumatisé les propriétaires. Ils ont repris le même chien, mais ils l'ont jamais laissé sortir. Donc la petite chienne que j'ai dans les bras. Elle a un an et demi, et pendant un an et demi, elle n'est jamais sortie. Elle faisait ses besoins sur une alaise et elle vivait dans une pièce. Donc, c'est pas une vie pour un animal. Ouais. C'est pas une vie pour un animal. Du coup, nous l'avons récupérée. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille. En fait, on avait peur qu'elle soit traumatisée par le fait d'être jamais sortie et qu'elle ose pas dans la rue et tout. Et en fait, elle court après tous les gens. Elle fait des bisous à tous les êtres humains qu'elle rencontre. Elle adore se promener. Elle adore être dans la rue. Elle aime un peu moins le métro. Mais voilà. Et franchement, je suis trop heureuse parce que j'ai toujours eu des animaux, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chien, tout simplement parce que le dernier chien que j'ai eu c'était un husky et c'est très compliqué d'avoir un gros chien en ville. Oui.
Il paraît que les huskies ils ont une sale personnalité aussi, non?
Franchement,
genre, c'est les divas des chiens et tout.
Moi c'était vraiment compliqué. En plus, elle détestait les femelles et elle détestait surtout les labradors femelles. Dès qu'elle voyait un labrador femelle, elle s'étalait dessus, elle l'empêchait de respirer. Et puis mon chien a éventré tous les signes de Paris. Enfin, c'était compliqué.
Quoi?
Oui, dès qu'elle voyait un signe dans la Seine, elle se jetait et puis tu pouvais pas la rattraper et elle l'éventrait. Puis elle se roulait dans ses entrailles. Moi j'étais un peu fière parce que j'étais là, je suis un peu princesse Mononoke avec son loup, tu vois. Et
Sauf que le loup de princesse Mononoke, il bute pas les autres animaux aussi?
C'est un loup, donc j'imagine qu'il doit buter des animaux pour les manger,
on va
tu
dire,
vois.
Ouais.
Et voilà, mais donc on est vraiment pas sur une nature de husky, hein. Est sur une personne très gentille qui mange des croquettes de manière délicate. Qui ressemble à un petit loupio.
Quand Ruby lui vole pas, faut préciser quand même.
Et alors aujourd'hui, on a et Ruby et Romy, du coup, et c'est vraiment la mignonnerie. Elles se sont fait des bisous et elles ont couru ensemble et tout, c'était gaulerie.
Elles s'adorent.
Et surtout, heureusement, ça se passe bien. Je sais que vous posez tous la question avec le maréchal. Heureusement, parce que le maréchal Gunti Flux, qui je le rappelle est mon chat, est un peu le prince de son quartier. Mais il a toujours adoré les animaux et il n'arrivait jamais à se faire des copains animaux. Et là, pour une fois, la chienne l'adore. Donc ils jouent ensemble. Les deux premiers jours, c'était pas facile. Mais là, c'est la folie. Ils se courent après, ils se donnent des petites tapes sur le museau et sur les fesses, c'est trop mimi. Sauf que ma chienne est tellement gentille qu'elle se fait un peu victime de ouf par mon chat qui est un peu un dictateur.
Il s'appelle le maréchal.
On l'appelle aussi la commandanture. et en vrai, il a quand même une sale personnalité les trois quarts du temps. Donc
il a une mèche.
Il a un peu un béret, enfin un petit chapeau sur le côté. Voilà, donc il a un peu tout d'une personne de la commandanture. Voilà, et donc c'est franchement une des meilleures choses qui me sont arrivées. Je suis trop heureuse depuis que j'ai cette petite chienne qui, dès que tu vas pisser et tu reviens, elle te fait la fête comme si elle t'avait pas vu depuis 8 jours.
C'est trop mignon.
Donc c'est un peu mimi. C'est aussi épuisant. Genre vraiment, vous voyez, ma teuté, je suis fatiguée parce que vraiment, ça demande beaucoup d'énergie un chien. C'est pour ça qu'il faut quand même, je le précise, bien réfléchir avant de prendre un animal. Bon, là, je la co-garde avec ma mère, là, la moitié du temps, un peu plus d'ailleurs. Donc c'est surtout ma mère qui s'en occupe. Mais en vrai, il faut bien réfléchir, surtout que les gens, en fait, ils ont tendance à suivre les modes de chiens. Genre, il y a eu la mode du Shiba Inu, et en fait, maintenant, il y a plein de Shiba Inu dans les refuges, parce que les gens, ils savent pas qu'un Shiba, c'est pas facile
à
gérer. C'est un peu un chien
diva. C'est un peu agressif,
diva.
En plus,
c'est agressif avec les autres chiens, même avec les chiens de sa propre race, hein, c'est compliqué. Du coup, les refuges se retrouvent blindés. On prend pas un animal pour la mode, on prend un animal parce qu'on a réfléchi, parce qu'on aime vraiment les animaux, parce qu'on est capable d'en recevoir un chez soi, qu'on est capable de les promener plusieurs fois par jour, de les faire courir. Voilà, c'est un engagement pour 15 ans de votre putain de vie, donc faut quand même bien réfléchir avant de prendre un petit toutou, parce que c'est pas un accessoire de mode, voilà.
En plus, c'est comme un enfant, mais qui reste con, c'est terrible.
C'est un peu comme un enfant, c'est comme un enfant de 6 mois tout le temps, c'est Aïda qui me dit ça tout le temps, parce que c'est complètement que des putains de dépendants. Donc voilà, ce matin, quand ma mère est partie, le chien a pleuré, s'est roulé par terre, avait des larmes dans les yeux, enfin laisse tomber.
Chien de Kalindi, une drama queen, évidemment.
Qui surprit même.
Voilà, donc je suis trop heureuse, c'est un kiff très au premier degré, mais mon amour est au premier degré pour ma petite Romy, aka Jenny Flair, aka Barna Babe.
Mais ça se passe bien là pour l'instant, l'adaptation, propreté, tout ça.
Elle est super propre alors qu'elle avait jamais fait pipi dehors. Elle n'a jamais fait ni pipi ni autre chose à l'intérieur.
Alors t'es fatiguée, mais t'as la version facile quand même.
Ouais, de ouf. Non, elle est super.
J'ai chopé Ruby. En fait, moi, Ruby, c'est un petit chien de refuge. Je l'ai déjà raconté ici, mais enfin, vraiment, les premiers mois, ça a été l'enfer. Et je pense que si on n'avait pas été à deux à l'époque, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais fini par soit renoncer en revenant vers l'assaut, mais enfin, ce qui est pas ok. Sauf que bah, j'avais pas anticipé à quel point la privation de sommeil était une torture. Parce que,
on dirait un podcast de parents de nouveau-nés.
Elle ne faisait pas ses nuits, c'est véridique. Et en fait, elle aboyait en continu la nuit et elle finissait par japper, ce qui est encore plus fort. Et en fait, évidemment, on avait des voisins, ce qui est un vrai problème. Et du coup, ouais, ça, et puis bah, les problèmes de propreté, quoi. Enfin, vraiment, à pisser partout, et puis bah, du coup, des fois sur tes fringues, et enfin, vraiment, il y a des fois où tu passes une mauvaise journée, et avec un chien, c'est une pire journée. Par contre, des fois, tu passes une bonne journée, et du coup, c'est incroyable. Mais c'est vrai que là, en ce moment, Ruby, typiquement, j'ai une période assez stressante parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc il faut aller vite. C'est pas le meilleur moyen d'avoir un chien. Enfin, ouais. Voilà, quand tu dois marcher vite dans une rue et que ton chien me dit, putain, mais ça sent un peu bizarre ici. Fatigant.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Voilà, c'est mon kiff.
Et quel kiff, mignon. Vous voyez pas, mais là, il y a Romy dans les bras de Kalindi. Des fois, elle ferme ses petits yeux pour faire une mini-sieste. Après, elle se réveille. J'espère que vous entendez les bruits de bisous que Kalindi lui fait aussi.
Ruby est ultra jalouse. De ce podcast. Ruby, la fixe super mal.
Ruby est un peu jalouse, c'est trop mignon.
Elle est allongée au pied de Kalindi et elle regarde super mal Romy depuis tout à l'heure. Parce que dès qu'il y a un autre chien dans les bras, elle est un peu en mode, en fait, j'ai quoi de moins que ce chien? Bah, l'hygiène, Ruby. L'hygiène, par exemple. Ah, mon doudou. Bah oui. Bah oui, je parle de toi. Je comprends rien. Anthony, oui. Quel est ton kiff?
Eh bien, mon kiff, il est très skincare aujourd'hui, très soin de la peau, parce que j'adore ça. C'est une passion pas du tout secrète. Hein. D'ailleurs, si vous avez des consultations de peau, je ne suis pas dermatologue, mais je peux vous donner mon avis. Envoyez-moi des DM sur Instagram, je répondrai avec plaisir, des recommandations de produits et peut-être des articles que j'ai déjà écrits. Car ça fait 6 ans que j'écris sur la beauté en plus de la mode. Bref, donc, mon kiff, c'est non seulement le rétinol que j'ai commencé il y a quelques mois, mais surtout la crème solaire, car maintenant que c'est l'été approche, qu'il fait beau, magnifique à Paris et peut-être ailleurs en France, il fait beau toute l'année en Martinique par exemple, eh bien, la crème solaire, c'est hyper important, même pour les peaux noires, ça fait des années que je le dis. Là, hier, ma sœur m'a raconté un truc qui m'a clairement déprimé, c'est que elle était à, je sais pas comment appeler ça, mais une espèce de salon, et il y avait une meuf qui lançait des crèmes solaires, une meuf qui a lancé une marque de crème solaire, et ma sœur est venue la voir en lui disant « Ah, coucou, bah, j'aimerais bien de la crème solaire adaptée au bébé, et puis pour moi-même, parce que c'est hyper important de protéger les enfants du soleil. » Bref, et la meuf qui a créé une marque de solaire pourtant, lui rit au nez en lui disant « Mais vous êtes noire, vous n'avez pas besoin de crème solaire. » Alors que, en fait, c'est du gros bullshit.
Honteux, hein, la meuf a lancé sa marque de crème solaire en 2022 et elle dit des choses comme ça.
Voilà, exactement. Donc, non seulement c'est dangereux parce que d'un point de vue sanitaire, c'est hyper important de protéger sa peau du soleil, mais en plus, c'est juste raciste, quoi. Bref, et donc, ce que je voulais dire, c'est j'ai plusieurs kiffs de crème solaire. Il y a un article sur Mademoiselle qui vient de sortir, évidemment. Mais je vais vous citer mes préférés parce que, en fait, je fais du rétinol. Le rétinol, c'est un principe actif anti-âge hyper bien, que vous pouvez commencer à partir de 30 ans, je pense, si vous le souhaitez, hein. Évidemment, c'est pas du tout obligé. Mais c'est l'un des seuls principes actifs à l'efficacité prouvée par la science depuis des décennies. Donc, voilà, je vous recommande du Polar Choice, mais vous pouvez lire tout ça dans ma routine beauté qui est sur Mademoiselle, théoriquement. Mais en gros, si vous faites du rétinol le soir, c'est hyper important le lendemain de mettre de la crème solaire. Et du coup, je vous en recommande plusieurs sur Mademoiselle. Des SPF 50, trop bien. Et je voudrais en citer trois là pendant que j'y suis. Du coup, c'est une crème solaire Antelios de La Roche-Posay qui est trop bien, qui est hyper fluide, donc qui conviendrait à tous les types de peau. Elle s'appelle Antelios UV Mune 400 SPF 50+. Voilà, elle coûte 12,66€. Elle est dans toutes les parapharmacies de qualité. Il y a une crème solaire Isidine qui est un peu plus compliquée à trouver, mais qu'on peut trouver dans certaines parapharmacies. SPF 50, complètement invisible, même sur peau noire évidemment. La Roche-Posay aussi, c'était invisible. Et ma préf, c'est une Cicavit SPF 50 de la marque SVR. Non, mais c'est pas du tout sponsorisé.
on t'écoute.
Mais voilà, elle est un peu plus compliquée à trouver aussi. C'est dans certaines parapharmacies, mais sinon en ligne, hein, ça se trouve facilement. Voilà, en fait, c'est une crème qui est réparatrice et anti-tache. Et moi, j'ai une peau noire, du coup, j'hyperpigmente hyper facilement. C'est propre à plein de peaux foncées en général. Et du coup, en fait, utiliser une crème réparatrice, une crème solaire SPF 50 qui a des vertus réparatrices, cicatrisantes, c'est d'autant plus intéressant parce que si vous avez des cicatrices de boutons, par exemple, ou si vous faites des taches pigmentaires, par exemple, bah ça va prévenir tout ça et aussi vous aider à les faire partir petit à petit, parce que une peau bien protégée du soleil, c'est une peau qui marque moins, qui fait moins de boutons, qui fait moins de marques, etc. Donc voilà. Mon kiff, c'est la crème solaire adaptée aux peaux noires, mais pour toutes les carnations, parce qu'en fait, si ça convient à une peau noire, parce que ça fait pas de traces blanches, de finis collants, gras, luisants, dégueulasses, tout ce qu'on veut pas, les trois crèmes que je vous ai recommandées ne font pas ça. La Cicavit Plus de S-Vert est peut-être plus pour l'automne hiver, mais les deux autres, elles sont parfaites pour l'été. Elles conviennent à toutes les carnations, je le répète. Voilà, la crème solaire SPF 50, protégez-vous, sortez couverts.
Moi, je mets de la crème solaire toute l'année.
Mais t'as trop raison, Camille.
C'est bien,
c'est pour
non
ça que tu as du glow.
Thank you. En fait, moi, j'ai tellement peur du cancer de la peau. C'est vraiment genre ma hantise number one dans l'existence. Donc vraiment, je mets toujours, enfin, je mélange avec une, tu me diras si c'est une connerie ou pas, mais je mélange avec une crème normale, tu vois. Mais j'en mets toujours un petit peu parce que j'ai juste trop peur des rayons du soleil qui font effet même quand il y a des nuages. Voilà.
Même s'il pleut, en fait, s'il y a du jour, s'il fait jour, s'il y a des rayons UV, quoi. Enfin, c'est ouais, logique, mais voilà, même toute l'année, même sous les jours de pluie, même l'hiver, voilà. S'il y a de la lumière du jour, c'est qu'il y a des rayons UV, quoi. Mais alors, est-ce que c'est une connerie? Je ne suis pas dermatologue, encore une fois, mais oui, c'est une connerie. Enfin, okay, c'est pas gravissime. C'est ouais, juste qu'en fait, si par exemple tu mets un SPF 50 et que tu le mélanges avec une autre crème, bah ça va devenir un SPF 15 ou 10, tu vois. Ça dépend
de
la quantité.
Ah, ça enlève un peu de la. Ok.
Voilà, la bonne recommandation pour vous aider à bien doser votre crème solaire, théoriquement, c'est une cuillère à café, une demi-cuillère à café de crème solaire SPF 50 pour le visage.
Okay.
Le truc, c'est que personne ne fait ça. Et vous n'avez pas forcément une cuillère à café dans votre salle de bain. Du coup, l'autre recommandation pour bien doser, c'est deux doigts de crème solaire. En gros, vous prenez de la crème solaire, vous l'étalez sur un doigt, genre l'index, et un autre doigt, genre le majeur, et c'est la bonne dose à appliquer.
Okay.
C'est un bon moyen mnémotechnique, il faut deux doigts de crème solaire pour le visage. Et voilà, donc en fait,
ce que tu peux faire,
mais en fait, ça dépend de toi, ton type de peau. Si toi, tu estimes que tu as besoin d'une crème hydratante avant ta crème solaire, enfin, en plus de ta crème solaire.
Non, c'est juste que j'adore m'étaler des trucs sur la tronche, mais en vrai.
Bah voilà, mais en fait, soit t'as vraiment besoin de confort et du coup tu mets ta crème hydratante et ensuite tu mets ta crème solaire.
Ah ok.
Soit la crème solaire suffit. Une bonne crème solaire, généralement, en fait, t'as pas besoin d'hydratant. À moins d'avoir la peau ultra sèche, dans auquel cas tu peux mettre de la crème hydratante et ensuite une crème solaire. Mais les crèmes solaires, généralement, en fait, les filtres solaires, c'est soluble dans le gras, généralement. Et c'est pour ça que les crèmes solaires, ça a un fini un peu luisant, collant et tout, que les gens aiment pas trop.
Moi j'aime bien.
Bah, trop bien, Camille.
Bah ouais, je sais pas, je trouve que j'ai l'impression de. Je sais pas, ça glow quoi, tu vois. Bah ouais, moi j'adore.
Je trouve que ça sent les vacances, ça glow. Et en fait, au pire du cas, les personnes qui se maquillent, par exemple, pouvaient mettre de la crème solaire partout et rajouter de la poudre sur votre zone T pour éviter qu'elle ne brille trop et garder votre glow de crème solaire sur les joues. Ça, c'est hyper cool et ça fait un highlighter naturel, dirons-nous. Mais toi, Kalindi, si t'as pas besoin de. Et les gens qui nous écoutent, évidemment, si vous avez pas besoin de grave d'hydratation toute l'année, bah essayez juste de votre crème solaire. Genre, vous nettoyez le visage, puis vous mettez votre crème solaire et ça se trouve, ça suffit pour la journée en fait. Vous pas forcément besoin de 46 sérums et de 46 hydratants en dessous de votre crème solaire. C'est de l'argent en plus, c'est franchement, mais c'est un peu du bullshit. Mais du coup, nettoyage du visage, et si t'as vraiment la peau sèche, tu peux mettre une essence ou une lotion hydratante, ou un sérum hydratant, et ensuite ta crème solaire.
Okay.
Et sinon, tu te nettoies le visage, tu mets juste direct ta crème solaire, et souvent ça suffit quoi. Donc à tester, et vous m'en direz des nouvelles, voilà.
Super.
Moi j'ai une question sur le rétinol. J'y connais pas grand chose, mais j'ai entendu que c'était un produit qui correspondait pas forcément à tout le monde ou qui pouvait être un peu, enfin, qui sont été couplés à d'autres choses en fait dans les crèmes.
Alors
pour
ça
atténuer.
Dépend. Il y a, en fait, le rétinol c'est un principe actif qui peut être très irritant quand il est mal utilisé.
Ok.
C'est pour ça que le rétinol déjà, ça fait des décennies qu'on l'utilise en cosmétique et qu'il y a énormément de recherches dessus, donc on a beaucoup de recul scientifique dessus.
Ouais.
Ça a eu une très mauvaise réputation dans les années 80, 90, voire 2000, parce qu'en fait les gens l'utilisaient n'importe comment. C'est pour ça que c'est hyper important de vous renseigner avant de vous mettre à utiliser du rétinol. Encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits anti-âge, et le rétinol, c'est très bien, mais ça ne convient pas forcément à toutes les peaux, effectivement. En fait, en France et en Europe, la réglementation, c'est jusqu'à 1% de rétinol. Dans d'autres pays, vous pouvez trouver davantage de rétinol dans une crème, mais en France et en Europe, ce n'est pas le cas, donc vous allez trouver du rétinol jusqu'à 1%, et en fait, il y a plein de marques qui jouent avec les mots, et qui disent « Oui, en fait, il y a du rétinol !» Mais en fait, c'est des dérivés de rétinoïdes qui sont dans les crèmes, ce qui peut être une bonne chose, mais en fait, il y a rétinol et rétinol, quoi. Long story short, le rétinol, c'est un principe actif qui est une forme de provitamine A, Et en fait, ça va être utilisé en soin anti-âge dans la mesure où, en fait, c'est un peu jouer la technique du pompier pyromane. Je m'explique. En gros, le rétinol, donc, qui est une forme de provitamine A, vous allez l'appliquer sur la peau et ça va avoir comme effet de signaler à votre peau qu'elle a besoin de se renouveler. Et du coup, le lendemain, vous allez avoir la peau peut-être un peu irritée, les premières utilisations, hein, j'entends. Un peu irritée parce que vous avez envoyé comme signal à votre peau... Enfin, c'est un peu comme l'inflammer volontairement, quoi. C'est lui dire attention, il faut activer ton renouvellement cellulaire et tout. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 semaines, ça devient trop bien parce que après avoir un peu sensibilisé votre peau, eh ben elle se renouvelle plus vite, elle s'affine un petit peu, votre grain peau s'affine aussi, mais elle se fragilise aussi, hein, de facto. Mmh. Eh bien, c'est trop bien parce que si vous protégez bien votre peau par ailleurs, vous avez une peau qui se renouvelle beaucoup mieux, elle est plus glowy, elle a un grain de peau affiné et voilà. Enfin.
D'où la crème solaire le lendemain.
D'où la crème solaire. Disais, ouais. Même toute l'année, mais surtout si vous faites du rétinol, c'est encore plus important parce que si vous ne mettez pas de crème solaire, bah, votre peau elle crame quoi, le ouais. lendemain.
Est-ce que c'est aussi ce qu'on met dans les gélules qu'on avale?
De quoi? Le rétinol?
Le rétinol.
Toutes les gélules.
Alors, dans.
Bah... Il est fait pour belle peau, beaux cheveux, beaux ongles.
Alors, de toute façon, souvent les compléments alimentaires qui te vendent une belle peau, c'est beaucoup de mythos. Parce ouais. qu'en fait, la peau, c'est un organe émonctoire, donc ça veut dire que c'est un homme wow. comme le foie. C'est un organe qui. qui est là pour, je sais pas comment dire, dépolluer le corps, en gros. C'est, du coup, c'est le dernier organe à servir aussi dans les nutriments que tu ingères par voie orale, par voie alimentaire. Et du coup, en gros, quand vous prenez des compléments alimentaires, tous vos organes vont servir. Et en dernier lieu, s'il reste des nutriments pour la peau, eh ben, elle va servir à son tour. Mais du coup, si t'avales de la vitamine A, eh ben, c'est pas forcément ta peau qui va servir en premier là-dedans. Du coup, du rétinol en complément alimentaire, ça va pas forcément servir à votre peau directement.
Et de toute façon, je confonds avec Eunobiol.
Ouais, non, rien à voir. Non, Eunobiol, c'est plutôt des vitamines du groupe B pour bronzer plus facilement, des trucs comme
ah,
ça.
Oui,
genre.
Ça. Excusez-moi.
Et mais bref, je m'égare. Le rétinol, en gros, ce qu'il faut savoir, déjà avant 30 ans, c'est je vous le recommande pas forcément, à moins que vous ayez la peau acnéique et encore demandez conseil à votre dermatologue. Hein, c'est hyper important. Mais si vous souffrez d'acné, en fait, ça peut être intéressant d'essayer le rétinol, mais encore une fois, demandez conseil à votre dermatologue. D'ailleurs, pour les pros du skincare, il y a des gens, et j'ai pas le droit de le dire, je pense, mais si on va le dire quand même, c'est qu'il y a des gens qui demandent à leur dermato des crèmes à base de vitamine A, du coup, qui sont dosés plus fortement, parce que c'est des crèmes à base de vitamine A qui sont des médicaments, et donc ils sont dosés plus fortement en rétinol. Mmh. Parce qu'encore une fois, le rétinol, c'est une provitamine A, quoi. Et donc c'est une technique de pro. Donc en fait, les gens qui sont vraiment, vraiment accro au rétinol, eh ben, ils vont jusqu'à demander un médicament à base de rétinol pour se le mettre sur la peau, quoi.
C'est un univers qu'on connaît pas, enfin que je connais pas.
Bah moi, ma dermatologue.
Les accros au rétinol. Une catégorie que je connaissais pas.
Mais moi, je suis devenue
accro. Quels sont leurs réseaux?
À faire 20 ans, en gros, j'étais archi complexée par mes vergetures, parce que je fais grave de vergetures. J'en ai partout sur les fesses, partout sur les genoux, partout dans le bas du dos. J'étais archi méga complexée. Je crois que j'étais la seule personne, le seul mec au monde à avoir ça, alors qu'en fait, spoiler alert, plein de mecs en ont aussi. C'est juste qu'ils s'en foutent. Et qu'on les renvoie oui. pas à ça. Et en fait, j'avais 20 ans, je suis allée voir ma dermatologue, je lui ai dit, c'est la fin du monde, j'ai des vergetures partout, je suis hideux, on dirait un zèbre et tout. Elle m'a dit, alors tout le monde en a, calmez-vous. Mais si vraiment, vraiment, vraiment ça vous fait chier, bah, je peux vous donner une crème à base de vitamine A qui va justement provoquer le renouvellement cellulaire. Et en fait, ça a un effet, le rétinol aussi, sur la texture de la peau. Du coup, ça lisse la peau. Relativement, tout est relatif. Et du coup, en fait, ça allait effacer un peu le relief de mes vergetures. Et du coup, j'ai essayé, et encore une fois, le rétinol, comme c'est hyper. Ça affine la peau, donc ça peut aussi la fragiliser au passage. Bah, au bout de 3 semaines, ça a commencé à faire des dégâts sur mes fesses, genre j'ai commencé à avoir de l'eczéma. Bref, du coup, j'ai arrêté. Mais trop de parenthèses dans cette histoire beaucoup trop longue, parce que je crois qu'il y a un article sur Mademoiselle sur comment s'initier au rétinol.
Voilà.
Parce qu'en fait, on commence pas du jour au lendemain à mettre du rétinol 1% tous les soirs. Okay. Genre, tu commences par du 0,3 un soir sur 3, après tu peux passer à un soir sur 2, après tu peux passer à tous les soirs, et une fois que, après 3 mois d'accoutumance, d'accommodation, merci. Et ben, tu peux éventuellement envisager de passer au 1%. Et
après,
quand tu commences
jeune.
À 1%, ouais. Quand tu commences Forever. À 1%, c'est un soir sur 3, puis un soir sur 2, puis ensuite tous les soirs, si vraiment ta peau le tolère bien. Voilà, en fait, le but, c'est de commencer le rétinol graduellement afin de construire la tolérance de ta peau au rétinol. Et ensuite, tu peux en mettre tous les soirs.
Trop bien.
Je suis fasciné par les gens qui ont une routine skincare. J'avoue que moi, j'ai été terrifié par les crèmes parce que j'ai fait de l'acné assez sévère. et que j'ai eu un dermato horrible à Rouen qui faisait des rendez-vous de type 5 minutes. Mais toujours est-il que, ouais, bon, lui, pour le coup, je l'aimais pas. Et en fait, il était pas, enfin, il était vraiment careless. Et en gros, bah, j'ai eu, comme beaucoup de gens qui ont eu de l'acné sévère, roux à cutane en gélule, avec 36 000 crèmes pour essayer de compenser. Et en fait, enfin, pour l'acné, j'avais un peu tout essayé, même l'eau précieuse. Enfin, vraiment, ce truc où j'avais essayé, bah, plein de trucs qui étaient plus ou moins bullshit. Et avec des crèmes qui te dessèchent la peau et tout. Et en fait, j'ai dû surcompenser Roaccutane, qui donc, contexte pour celles et ceux qui ne savent pas, qui est un espèce de produit qui dérégule et est censé re-réguler tes hormones et la sécrétion de sébum. Et en fait, genre, ça t'assèche la peau. Enfin, j'avais les lèvres ultra sèches, donc je devais mettre du stick H24. Enfin, c'était un peu un enfer. Et puis je devais pas m'exposer au soleil, et puis en fait ça a des effets aussi sur votre foie, il aurait pas fallu que je tombe enceinte, bon ça tombe bien, c'était pas possible, mais
je crois que ça pose aussi des problèmes de santé mentale, qui est...
Exactement.
Enfin, c'est un des effets secondaires potentiels qui est assez fréquent, hélas, avec le Roaccutane, c'est les effets sur la santé mentale, ça peut favoriser des formes de dépression et d'anxiété. Voilà.
Exactement, et c'est
surtout chez les hommes d'ailleurs.
Et c'est le seul effet que j'ai eu. J'ai pas eu de problème de foie, j'ai pas eu de problème avec mon fœtus car je n'avais pas de fœtus dans le ventre. Mais j'ai eu des problèmes, bon, de peau évidemment très fort, et surtout un gros problème d'état dépressif. À tel point que quand j'ai arrêté le traitement, donc je suivais une psychothérapie à ce moment-là, en fait je sais pas pourquoi, j'ai envie de mourir. Et en fait j'ai arrêté le traitement et vraiment 2 semaines après, quand le truc était sorti du sang, je vais bien en fait. J'ai pas de problème dans ma vie. C'était juste un filtre déformant de, enfin en fait comme tu prends pour prétexte des choses dans ta propre vie, l'impression de vraiment aller mal, et en fait t'arrêtes le traitement et tu dis non, j'avais juste les mauvaises lunettes quoi, globalement. Et c'est assez fascinant que ça n'ait pas été pris du tout en compte au moment où on me l'a prescrit. J'étais très peu suivi sur ce traitement, et c'est quand j'ai changé de dermato en déménageant à Lyon que j'ai eu une personne qui m'a fait: attendez, vous prenez cette dose là mais c'est une dose de cheval, moi je vais jamais au-dessus de, je crois qu'il allait jamais au-dessus de 50 et j'étais à 65 je crois.
Ok, donc, bah c'est aussi important de lire la notice des choses que vous utilisez, oui, sur tous les médicaments. Voilà.
Absolument.
La case effets secondaires.
Je suis un très mauvais élève des médicaments.
Mais je suis navré, je dois vous laisser. Je vous adore, les Alain Crado et les Alain Crados. Je dois enregistrer Jeudi Tout, qui est tous les jeudis midi en live Twitch sur Mademoiselle. Et c'est hyper intéressant. Donc allez-y, regardez. Faites-nous coucou et dites-nous si vous venez de la part de LMK. Bisous!
Salut Anthony!
Bisous, salut Anthony! Et c'est le moment d'enchaîner sur le kiff de Madame Aïda.
Bonjour!
Aïda!
J'hésite encore entre deux kiffs.
Ah bah
il y en a un qui est lié à ma régression post-adolescente de mes 30 ans, et il y en a un qui est lié à mon moi de l'âge adulte. Je sais pas si j'ai envie d'être Aïda du passé ou Aïda du futur. Je vais partir sur Aïda adulte.
Aïda, oh, ok, pour le jeu de mots, moi je valide. C'est bon, Aïda adulte.
Parce que je me sens pas en crise d'adolescence aujourd'hui, je garderai mon kiff d'adolescence un autre jour. Mon kiff, c'est, attention, grande étape dans ma vie d'adulte, partir en week-end avec toute ma famille.
Ah, trop bien. Oh.
Ce qui aurait vraiment pu être une sacrée source d'angoisse pour moi il y a quelques années, au sens où, bon, faut que je fasse un point contexte sur ma vie, mon œuvre. donc moi, je suis enfant unique, oui. Ce qui a créé des peurs de l'abandon catastrophique chez moi et des « je suis seule au monde, personne ne m'aime » et tout.
Tu sais prêter les jouets aujourd'hui ?
Non mais moi j'ai toujours été, enfin franchement c'est un mensonge le truc des enfants uniques qui prêtent rien.
C'est pas un mensonge.
C'est grave un mensonge.
Moi j'ai toujours prêté mes affaires, je suis enfant unique aussi. Hein.
Mais bien
non,
sûr.
Non, vous êtes les pires personnes.
T'as tellement
par contre
peur.
J'ai le même truc que Kaïda de vraiment avoir l'impression que les gens vont partir et m'abandonner.
Mais
moi
ça.
Aussi mais je suis sagittaire donc.
Non mais oui, moi j'étais tellement en mode non mais j'ai besoin d'amis parce que j'ai pas genre de frères et sœurs avec qui jouer en vacances et tout, que je filais mes jouets à n'importe qui en mode aimez-moi un peu, je ne veux pas être seule face à tous ces enfants qui ont 3 frères et sœurs avec qui raconter des trucs. Bref.
Je vois.
Je suis enfant unique et donc je suis partie en week-end avec ma famille maternelle un petit peu en grande pompe.
La famille Madrigal.
Oulala, Kalindi va hurler. We don't talk about Bruno. Et Kalindi pleure. Donc voilà, je suis partie en week-end avec ma maman, ses frères et sœurs et ma grand-mère dans une ville de la montagne, un peu dans le Jura, dans un chalet et tout. Le but, c'était de fêter mes 30 ans.
Oh.
Et voilà, on a dit, allez, Aïda, à 30 ans, je suis l'aînée de la cousinade de ce côté-là de ma famille et de l'autre, je crois aussi. Du coup, c'était un peu en mode, ok, les premiers 30 ans de la génération des kids et tout, faisons un truc un peu special. Et il faut savoir que dans ma famille, on a un talent assez exceptionnel pour le silence. On n'est pas... des gens extrêmement...
m'attendais pas ça.
Non, moi non plus, j'étais en mode l'origami, les jeux d'ombre, les diaporamas, je ne sais pas, tu vois.
Et non, on n'est pas des gens très très bavards. La première fois que mon mec a rencontré ma famille... Mon mec vient d'une famille méditerranéenne où les gens parlent beaucoup, donc quand moi j'ai rencontré sa famille, tout le monde me parlait, me posait 12 000 questions en même temps, tout le monde criait et tout. Il est arrivé dans ma famille, c'était le silence autour d'une table.
Quel enfer!
Où t'entends un peu les cuillères qui tapent contre les tasses à café. Mais moi j'adore!
Ah bon?
Mais oui, moi je suis en mode, on n'est pas obligé de se forcer, on se sent bien, on parle pas des sujets qui fâchent, on est, je sais pas, on est à l'aise quoi, on n'a pas besoin de meubler. Le déjeuner, finalement, on peut être content d'être à 15 autour d'une table sans rien dire.
Je suis offensée.
Mais alors, donc, t'as quand même si t'es enfant unique, t'as une grande famille.
En gros, du côté de ma mère, on est 4 enfants de ma génération. Parce qu'elle a une sœur qui a eu 3 enfants, qui sont un petit peu plus jeunes que moi de quelques années. Et après, elle a 2 sœurs et un frère. Et après, il y a ma grand-mère, quoi. Donc, on était et les plus swans, enfin, tu vois, les conjoints, les conjointes, les mecs, les meufs et tout. Donc, en gros, on était une grosse douzaine, quoi. Et je m'attendais à ce que ce soit, enfin, tu vois, on partait en montagne et tout. J'étais là, yes, on va faire de la rando, on va pas se parler pendant 3 heures et tout.
Waouh!
Et en fait, pas du tout. Ouais, je sais pas, c'est. Mais vraiment, ça choque tout le monde quand j'en parle. Et moi, je suis en mode, mais c'est vous qui êtes bizarre.
Mais c'est parce que t'as grandi dans ce contexte-là. Ouais. Mais moi, j'ai une famille où c'est le cliché de la communication. Tu sais, où vraiment, on faisait des réunions familiales s'il y avait eu une dispute avec ma sœur. Et c'était vraiment, on va se poser, on va en discuter. On se mettait sur le canapé, il y avait un paquet de mouchoirs au milieu de la table. Et chacun parlait à tour de rôle. Comment
un
tu
bâton
te sens
de la parole.
Dans ce... Non,
trop
mais vraiment,
ma famille, putain.
Le cliché vraiment du truc, la lecture psychologique. Enfin, ma daronne en fait lisait beaucoup de conseils sur comment parler à votre ado et elle avait mis en place un truc parce qu'elle avait une relation un peu conflictuelle avec ma sœur un temps où elle disait Salomé, je t'aime, mais.
C'est horrible. Et c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut dire à quelqu'un.
Bah, c'était les conseils, les pages ados, West France, tu vois. Enfin, c'était un peu des adultes qui étaient en mode, voilà, comment je gère mon adolescente. Donc voilà. Pardon.
Eh bien, moi, donc, il n'y a pas de conflit dans ma famille puisqu'on se dit peu de choses.
Il n'y a pas de parole, donc évidemment, oui.
Mais oui, mais c'est parfait. Du coup, on ne peut jamais s'engueuler. Mais en même temps, on s'aime vraiment beaucoup parce qu'il faut aimer profondément des gens pour rester
silence
à une table pendant 2 heures avec
mais
eux.
Mais vous connaissez? Vous connaissez les prénoms de chacune quand même? Il y a quelque chose, non?
Bah, on se connaît d'une manière qui n'est pas celle de plein de familles où tout le monde se raconte tout et où il n'y a pas de filtre, tu vois. Parce que bah, y a des
arrête
sujets
de
qu'on
m'offenser.
Évite. Bref. Toujours est-il que moi je m'attendais à ce que ça se passe un petit peu comme ça et en même temps ce mode de fonctionnement de silence, après j'exagère quand je dis qu'on passe 2 heures sans se dire un mot, en vrai on parle un peu, c'est juste que des fois il y a des blancs qui durent 10 minutes et on trouve tous ça normal à part les gens qui sont invités et qui comprennent pas pourquoi d'un seul coup personne dit rien. C'est vrai que toi tu détestes le silence en plus. Mais tu ferais que des imitations.
J'adore le non alors
des imitations de vieux.
Alors c'est faux. Je déteste le silence. Non, dans le sens où quand je suis tout seul, j'ai aucun problème avec le silence. Et quand je suis qu'avec une seule personne, genre un ami ou une amie ou un partenaire, une partenaire, c'est pas un problème. J'ai besoin d'être très en confiance avec la personne pour ne pas combler. Par contre, sur des trucs collectifs, enfin.
J'ai remarqué Mathis.
Ok.
C'est pour ça qu'on t'aime.
Non.
Moi, j'aimerais trop que tu viennes à une de mes réunions de famille.
Non, ben non, bien sûr que non.
Parce qu'il y aurait vraiment 52 imitations.
Ah, mais je deviens DJ Bruno, animation, le mec gênant qui fait « Allez, tout le monde se met... Allez, on se met debout, on tape des mains, super. Alors, on va faire une charade, mais chanter. » Enfin, vraiment... je sais pas.
Une chantade.
Une chantade. Non, vraiment, je suis DJ gênant, quoi. DJ-en, c'est bien. DJ-nance.
Mon rêve. Enfin bref, toujours est-il, faut pas que je m'étale trop parce que je crois que cet épisode dure déjà 1h30.
Non, ça va.
Ça va, on est dans les temps.
52 minutes, on est bien.
On est bien. Toujours est-il que je me disais, ok, bon, peut-être que ça va un peu se passer comme ça, et en même temps, ça, c'était l'organisation familiale de, je sais pas, quand mes cousins et moi, on était gosses. Là, on a grandi, on fêtait mes 30 ans en tant que Aïda adulte, et ça s'est passé d'une manière super étonnante pour nous, qui est que, bah, en fait, on s'est dit plein de trucs.
Ah, surtout, bah voilà.
Parce que le but du jeu étant de célébrer mon anniversaire, ma cousine avait organisé des jeux extrêmement gênants pour célébrer mon existence.
Je suis cette
à base
cousine.
De tous les trucs cringe que j'ai fait dans ma vie. Et on a fait plein de trucs hyper drôles. Enfin, en gros, il y a eu un moment, il y a eu une épreuve, c'était il faut maquiller quelqu'un en émo avec le contenu de la trousse de toilette de ma cousine qui contient genre un crayon kohl et... une cire violette pour les cheveux qu'elle avait achetée pour l'occasion. Du coup, on a maquillé mon oncle en mode émo. Enfin, vraiment, on a fait n'importe
ça
quoi.
Ça a l'air génial.
Après, on a fait un karaoké sur Diams. C'était vraiment très bien. Ça a
c'est
empêché
incroyable.
Ma grand-mère de dormir, mais elle s'est bien marrée. On a fait des Pokémon en pâte Fimo. Enfin, bref, vraiment des trucs que t'as pas l'habitude de faire avec ta grand-mère de 72 ans.
C'est les meilleures activités.
Essayer de faire un Smogogo en pâte Fimo violette, quoi. mais c'était vraiment très drôle. Ma mère avait fabriqué vraiment, mais. Ma mère, elle aime trop le do-it-yourself, mais elle fait n'importe quoi à chaque fois. Donc là, je sais pas comment elle a réussi sur un disque dur à retrouver des photos que j'avais mises sur mon MySpace en 2007, quoi. Ouh. Et elle en a fait des sets de table sur lesquels on a mangé.
Waouh.
Avec des photos de la honte.
C'est génial.
Ils sont vraiment donnés, c'est trop bien.
Ouais, oh, ouais, ouais. Franchement, génial. Tout le monde s'est motivé à faire un truc de ouf, ce qui était pas habituel, mais ça met la barre très haute pour les 30 ans de ma cousine qui arriveront dans 2 ans. Je commence à les organiser dès aujourd'hui, comme les JO. Mais, mais du coup, voilà, c'était super drôle de à la fois sentir un peu ce changement familial qui se fait où, bah, je sais pas, il y a des contextes où peut-être on est plus à l'aise et on se parle plus. Et à la fois de faire des trucs qui sont très bizarres pour la génération de ma grand-mère et de mes parents. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des trucs un peu weird pour eux. Et au final, ils se sont prêtés au jeu, ils ont beaucoup rigolé, on s'est bien marré, on a fait aussi un peu de rando, j'ai trouvé une morille.
Ce wow
qui était extrêmement impressionnant,
impressive.
Elle était énorme.
Je sais plus si c'est un poisson ou une chaussure, la morille.
C'est vraiment un champignon.
Super.
Un champignon cher.
C'est terrible, j'ai été très sincère sur cette question.
Mais où est-ce que tu veux qu'on trouve un poisson ?
En rando, bah dans une rivière.
Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est plus dur à trouver qu'un champignon, quoi.
Ça me choque moins qu'une chaussure.
Pour dissiper le malaise, je vais tenter de siffler.
En rando.
Ah.
Je ne sais pas siffler. Peut-être que vous avez remarqué.
Smogogo, c'est lequel?
C'est
putain.
J'en peux plus, je tousse. Un truc rond, violet, qui lâche des fumées toxiques.
Ok.
Bref.
On dirait un sex toys un peu...
Ah ouais?
Mais tu sais, on reçoit des trucs chelous au bureau en mode ah, alors celui-là c'est une algue.
Moi j'en ai un, c'est un épi de maïs.
Voilà.
Mais full épi de maïs, sauf qu'en fait c'est de la merde parce que c'est juste un bâton. Donc une fois que tu te l'es fourré et que ça vibre, c'est nul. C'est un peu texturé, genre sweet and sour. Tu vois, genre c'est comme ça.
Oh non.
Mais c'est surtout juste un tube quoi. Donc c'est vraiment nul à chier. Moi j'aime quand il y a des trucs un peu nervurés et tout. Là c'est vraiment. Bon, c'est voilà.
Mais tu peux l'utiliser comme objet de décoration.
Bah, c'est de ça dont je parle.
Je l'ai montré à ma mère, ça l'a fait rire.
C'est de ça dont je parle. Moi, je suis chouque des fois par la forme des objets qu'on est censé s'insérer dans les
ouais,
endroits.
Ouais,
je sais pas.
Il y a des dauphins. Il y a plein de choses.
Ah, les dauphins, c'est pas normal.
Non.
De s'insérer un
bah,
dauphin.
Non. D'autant plus quand on sait que c'est des violeurs. C'est, le symbole est pas ouf.
Bah ouais, voilà.
Le symbole est pas ouf du tout.
Bref, ma grand-mère. Donc. Non, voilà, c'était mon kiff partir en week-end avec toute ma famille. C'était très rigolo.
C'était où exactement?
Super.
C'était dans le Jura, à la limite entre l'Ain et le Jura, dans un endroit qui s'appelle Giron. Mais du coup, maintenant, j'ai donné le spot à Maury, à toute.
Le spot à une Maury. C'est beau que tu aies utilisé le terme de Giron, parce que le Giron, en plus, on dit rester dans le Giron de sa
bah,
mère,
ouais.
Par exemple. Donc c'est
et j'y suis retournée.
Ce parallèle.
T'es vraiment psychanalyste, quelqu'un dit. Voilà, c'était mon kiff d'adulte.
Putain, j'aimerais trop que ma famille fasse ça pour moi, et vraiment, ils ne le feront jamais. Vraiment. Imprimer des photos sur des sets de table et faire des Pokémon en pâte Fimo, c'est vraiment quelque chose que 100% des gens de ma famille ne feront jamais.
C'est quand
mais moi je pensais ça. Hein.
C'est le 20 octobre. Non, ma mère, déjà, le jour, j'ai invité une copine à dîner. C'est moi qui ai fait à dîner, alors que normalement elle fait à dîner. Et j'ai dit, on met la table dans le salon. Elle m'a dit, non, on va manger dans la cuisine. Et j'étais là, bah quand même, s'il te plaît. Enfin, elle était là, non, mais c'est bon, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire. Et j'étais là, yes, et ben c'est super.
Ouais. Nous, tout est bon. Bon, on va crever. Hein. Tout est bon prétexte chez nous à sortir les jolis verres, les jolies assiettes et le balai à chiottes. Chose que je n'ai jamais raconté dans les soins qui fait, mais que tout le monde sait chez Mademoiselle.
Ouais,
nous avons, désolé maman si tu nous écoutes, mais nous avons un balai à chiottes décoratif chez mes parents. Ma mère est quelqu'un qui, pour laquelle les apparences de la maison comptent beaucoup. Et une maison bien tenue, c'est une maison, c'est la preuve d'une forme de réussite, quoi. Du coup, la dernière fois, je suis allé aux toilettes et je comprends pas pourquoi le balai à chiottes est mis de côté comme un bisu et tout. Elle me dit, ah non, on n'utilise pas celui-là. Celui-là, il est pour décorer. Je dis, pardon. Elle me fait, bah, en fait, celui-là, c'est un beau balai à chiottes. en fait, il a une espèce de petit couvercle au-dessus en métal, ce qui fait que ça raye si tu l'utilises. Elle dit, non, utilise celui-là. Et là, elle m'ouvre un placard tout en haut et vraiment, au fond, à droite du placard, il y a un vieux balai à chiottes dégueulasse, décoiffé, genre un fan de Renault, tu vois, enfin, un truc horrible. Elle dit, c'est ça qu'il faut utiliser. Et je dis, mais les gens le savent. Elle fait, non, on s'en fout, c'est pas... faut pas que les gens sachent, quoi.
Bah, faut pas que les gens viennent chez vous, quoi, du coup.
Bah ouais.
Bah non, mais bon.
Et puis, c'est... tout ce transport de balai à chiottes, ah, ouais, ça bah, me ça paraît vraiment pas hygiénique, quoi.
De ouf.
Genre, ça... tu l'utilises, après, c'est tu tout... remontes.
T'as la pellicule de merde qui te tombe dans les yeux.
Ça je... me dég.
Ah ouais, laisse tomber.
Ma mère, j'ai dit laisse tomber
et j'ai envie de me suicider.
mais c'est comme le fait que voilà, juste après un repas, il faut tout nettoyer, passer l'aspirateur systématiquement, passer la serpillière. Après la douche, il faut passer la raclette. Voilà. Après, c'est pas. Enfin, elle est maniaque sur des trucs, je suis maniaque sur d'autres. C'est pas un souci. Juste moi, ça m'avait fait rire ce petit détail du balai à chiottes. Je trouvais ça incroyable. Voilà.
Bah toi, merci. Là, c'était un super kiff.
Merci beaucoup, Aïda, en effet.
Mon logo en pâte fimo, vraiment.
Bah moi, mon kiff est un kiff de théâtre parce que ça fait longtemps. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été plusieurs fois au théâtre la semaine dernière. Et justement, j'ai vu une pièce qui m'a fait un effet assez dingue. Je ne saurais pas dire si j'ai vraiment aimé ou si j'ai vraiment passé un bon moment. En tout cas, ça m'a marqué. Ce qui, je trouve, est chouette. Je trouve que trop souvent, on réduit l'idée d'une bonne pièce ou même d'un bon film au fait d'être diverti. Mais en fait, l'art peut être un peu plus que ça. Ça peut être quelque chose qui vous travaille, qui vous fait... je sais pas, qui vous fait réfléchir, qui vous met mal à l'aise, qui vous procure en fait des sensations fortes que vous pourrez pas ressentir dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on peut mettre à profit plein de choses, que ce soit bah, l'acting, enfin la performance, que la lumière, la musique. Et quand tout ça est aligné, bah, vous pouvez voir des choses en fait qui vont vous marquer à vie et pas juste vous divertir. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu une pièce de Gisèle Vienne, qui est donc une metteuse en scène, plasticienne, chorégraphe franco-autrichienne, dont je connaissais en fait le travail bah, de nom, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir une bonne notoriété dans ce milieu-là précis du théâtre et de la danse. Mais j'avais jamais eu l'occasion de voir ces pièces parce que c'était complet en deux secondes. Et donc là, j'avais pris ma place pour le Théâtre des Amandiers, qui est un théâtre à Nanterre.
Pire souvenir de vie quand j'étais en option théâtre au lycée, on était abonnés au Théâtre Nanterre-Amandier, donc tous les putains de jeudis soirs, j'allais voir des pièces en férique au Théâtre Nanterre-Amandier, des trucs hyper conceptuels, fallait aller au bout du monde, prendre 12 métros, 14 bus, se faire manquer, se faire violer 5 fois, enfin, c'était horrible, genre vraiment, pire expérience Nanterre-Amandier.
Je pense que ça craint moins maintenant.
Moi j'y allais tout le temps quand j'étais en fac de philo, j'allais voir toutes les pièces conceptuelles, mais c'était même pas un partenariat, c'était de ma propre volonté quand j'étais cultivée d'aller au théâtre voir des trucs conceptuels.
À l'époque, tu savais qui était Christophe.
Non, ça vraiment, ça faisait pas partie de la culture que je voulais posséder, Kaline.
C'est comme elle Madeleine m'a regardé avec un regard de mépris, genre, vraiment si vénère.
Pardon.
Pas de souci. Et donc, bah moi qui suis dans cet âge où je vais voir des choses conceptuelles, parce que j'ai quelque chose à me prouver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise.
Toi aussi, un jour, t'auras la flemme.
J'ai donc été voir cette pièce sans savoir, avant d'hésiter pendant une demi-heure, qu'il y avait Adèle Haenel qui jouait dans cette pièce. Il y avait que deux comédiennes. Henrietta, dont j'oublie le nom de famille parce que je suis incompétent et que je suis venu sans préparer ce kiff, qui était incroyable par ailleurs, et donc Adèle Haenel. Et en fait, cette pièce-là donc, s'appelle L'étang.
L'étang comme un lac.
Comme un lac, exactement. L'étang. Comme...
Oui, okay.
L'étang. Et en gros, c'est l'histoire. C'est un peu compliqué à raconter, mais c'est un personnage qui. Alors. Moi, il y a plusieurs théories. C'est compliqué de lire l'histoire, mais soit c'est un personnage qui a du monde dans sa tête, très clairement, qui a des problèmes de troubles de l'identité ou troubles de la personnalité, je crois que c'est ça le terme. Ou alors, c'est juste Adèle qui joue plusieurs personnages. Mais a priori, je pense qu'il y a vraiment un truc sur la santé mentale qui se joue et qui est vraisemblablement un peu terrifié par son environnement familial avec donc le personnage de sa mère qui est... en fait, enfin, tous les mouvements... C'est compliqué d'expliquer cette pièce parce que je trouve que ce qui se joue, il y a du fond, oui, mais c'est surtout moi la forme qui m'a matrixé parce qu'en fait, déjà on sent que Gisèle Vienne est une chorégraphe et tous les mouvements sont faits au ralenti. Et c'est fascinant de voir des gens marcher au ralenti au théâtre parce que bon, dans les films, etc., on triche. Au théâtre, on ne peut pas tricher, c'est le corps qui doit être absolument maîtrisé. Et voir en plus des moments où le corps est au ralenti, par contre le texte se dit à une vitesse absolument normale, et du coup des fois vous voyez des moments où Adèle Haenel est en train de jouer littéralement la panique, et un dialogue entre quatre personnages différents, en changeant les voix, en changeant les tons, les intonations, ça discute, ça répond et tout, et elle fait tout ça en étant en train de tomber au ralenti, et t'es en mode waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir. Et en plus Il y a un jeu avec une espèce de création sonore très pesante. Je vous mettrai les noms des personnes parce que vraiment il y a plein de gens qui ont énormément bossé, je pense, là-dessus et qui ont très bien bossé. C'est juste que je les ai pas sous les yeux. Mais il y a une création sonore qui est dingue et qui fait un truc qui est rare au théâtre et qui, moi, me manque assez souvent. C'est tout simplement de jouer avec le live. C'est-à-dire qu'on a des acteurs et actrices qui sont, bah, des actrices pour le coup, qui sont amplifiées. Mais c'est pas juste un micro, donc il y a des moments où on va faire résonner leur voix, on va jouer, on sait plus si c'est dans la création sonore qui avait été pensée en amont ou si c'est fait en live, donc il y a un espèce de mélange des deux où en fait on est en train de créer du son en même temps qu'il y a de la performance, ce que je trouve absolument dingue. Et
Coupé de Michel Hazanavicius.
C'est vrai? Bah, en tout cas, voilà, moi au théâtre j'avais vu ça assez rarement, j'avais vu ça dans une adaptation de La Pitié Dangereuse par un collectif allemand à Lyon il y a quelques années, et c'était dingue. La Pitié Dangereuse, qui est un livre que je vous conseille d'ailleurs de Stefan Zweig, où en fait justement les comédiens et les comédiennes, il y avait des moments où la voix était déformée, ça partait en couille, et ça peut être très terrifiant, quoi. Enfin, vraiment, il peut se passer des choses sur scène qui ont l'air anodines, mais à partir du moment où vous mettez un effet tout de suite, ça prend un sens fou. Et c'est justement ce qui s'est passé là avec cette pièce, c'est-à-dire que la moindre ligne de texte, par les effets de lumière, en fait il y avait une espèce de scéno très minimaliste avec un fond blanc, un sol blanc, et en fait les murs au début on voyait même pas par où allaient rentrer les comédiennes, mais en fait c'était un faux mur entre guillemets qui bouge, qui est une porte, et en fait ça donne l'impression d'être dans des espèces de cellules d'isolement, vous voyez, un peu comme en hôpital psychiatrique avec juste un lit. Et en fait, quand vous arrivez dans la salle, il n'y a pas de rideau avant, donc vous voyez déjà cette espèce de chambre slash cellule. Et par terre, il y a des mannequins, comme des mannequins de supermarché, vous voyez, qui sont disposés, et c'est ultra glauque, il y a des pilules partout, on a l'impression qu'il y a eu une overdose générale, donc c'est d'un glauque pas possible. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que ben, très vite, en fait, on comprend par les dialogues, etc., ce que c'était censé représenter. Ça représente un peu tous les personnages qui sont dans cette pièce sans y être vraiment, parce qu'ils sont interprétés par Adèle et Enel. Et donc, c'est assez fascinant de voir cette pièce qui dure une petite heure, je crois, brasser autant d'émotions et d'arriver à jouer sur tout d'un coup passer d'une couleur à l'autre, passer d'un mouvement à l'autre, et en fait arriver à retranscrire une émotion avec, je trouve, beaucoup de justesse. Le seul moins, mais ça c'est pas lié à la pièce, c'est le fait que les gens rient. Moi ça me fascine toujours, je trouvais que ce qui se jouait était absolument dramatique, mais comme c'est souvent le cas au théâtre, moi je pleure facilement, ou je suis facilement, pas forcément trigger, mais en tout cas très très investi émotionnellement, et là j'étais vraiment avec des yeux écarquillés tout le long parce que je trouvais ça terrifiant, et qu'en plus il y ait question de tentative de suicide, enfin c'est des sujets difficiles, il est question évidemment de drogue, d'où les déformations de la voix et tout, et des couleurs. Et ouais, il y avait pas mal de gens qui riaient. Alors ça peut être un mécanisme de protection pour des gens, et puis le jeu d'Adèle Haenel peut être comique parfois, c'est ça qui est assez intéressant selon les personnages qui est fait intervenir. Mais du coup j'ai vu vraiment un truc que j'arrive pas à analyser encore aujourd'hui, mais qui a été une vraie claque et qui me poussera à réfléchir, parce que moi j'écris du théâtre aussi, j'avance pas beaucoup sur une pièce que j'ai depuis quelques années, mais je la remanie à échéance régulière en trouvant que tout ce que j'ai fait avancer de la merde, Mathis Grosso branding, et ça me fait réfléchir beaucoup sur des idées de scénographie, de mise en scène, de comment porter un texte, comment le faire résonner, comment lui donner vraiment l'assise dont il a besoin. Et là, je trouve que c'est vraiment une masterclass que j'ai vue de Gisèle Vienne. Et du coup, il se trouve que j'en ai parlé avec une LM Crado qui s'appelle Terreur Nocturne. Et on en a beaucoup discuté. Et en fait, elle l'avait vue en Bretagne, je crois à Rennes, si je dis pas de bêtises. Tu me corrigeras si c'est pas le cas. Et elle avait assisté à un bord de scène. Et donc, elle m'a dit qu'elle m'enverrait un petit bout. Et j'ai pas eu le temps du tout d'écouter ce qu'elle m'a envoyé. Mais voilà, moi, j'étais très frustré de pas avoir plus d'explications. Et en même temps, ça m'a poussé à faire un deuil que je fais progressivement. C'est ne pas chercher à suranalyser les trucs que je vois en général. Parce que moi, c'est vraiment, je fonctionne beaucoup au rationnel et j'ai vraiment besoin de surintellectualiser les trucs. Et en fait, des fois, c'est juste incroyable de ressentir quelque chose déjà dans une expo, dans une salle de spectacle, dans un cinéma. Donc voilà, quand ça arrive, je pense que c'est important d'en parler. Et puis c'est aussi un moyen, je trouve, de faire un théâtre. Excuse-moi, c'est aussi le moyen de faire un théâtre qui n'est pas excluant. Ce qui était le problème typiquement avec le Richard III que j'ai vu, où je me suis dit, le texte de Shakespeare, il n'est pas forcément facile déjà de base. Mais alors là, avec 30 000 personnages, en plus, il avait mélangé ça avec des trucs de la guerre du Kosovo. J'étais en mode, les gars. Non, c'était la guerre du Golfe, c'est ça. Mais ils avaient fait un truc hyper intellectuel. J'étais oui, enfin non, en fait. Même moi qui suis intéressé par le théâtre, je décroche. C'est pas normal. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est accessible. En fait, n'importe qui peut ressentir une émotion et je trouve ça dingue. Voilà.
Non mais c'est hyper intéressant ce que je te disais, ce que tu disais, pardon.
Ça s'approprie mes propos. Super.
Ce que tu disais au tout début de ton kiff sur le fait de pas forcément avoir besoin d'être diverti ou pas forcément d'aimer un produit au sens large, de aimer un produit pour le trouver intéressant. Moi, il y a quelques années, j'ai vu un film qui a vraiment bouleversé un peu ma vision du cinéma qui s'appelle Border de Ali Abbasi et qui est un cinéaste suédois qui fait toujours des trucs complètement what the fuck et barjo. Mais j'en avais déjà parlé dans un LMK, donc je vais pas refaire le pitch. C'est juste que en sortant, j'étais là. Je suis complètement déstabilisée parce que j'ai pas aimé ce film et à la fois ce film m'a hantée pendant des mois, donc je peux dire aujourd'hui que c'est un film qui m'a vraiment marqué dans mon amour du cinéma et donc oui, c'est pas forcément nécessaire d'être diverti ou même d'aimer un film pour en tout cas s'être laissé marquer à vif par cette œuvre là.
Moi, c'est ce que je ressens beaucoup avec Gaspard Noé, où typiquement je passe jamais un très bon moment en regardant les films de Gaspard Noé. Par contre, à posteriori, des fois ça me pousse à re-réfléchir des choses. Alors après, je trouve ça un petit peu toujours un peu forcé, un peu appuyé, et c'est ça qui me saoule aussi, c'est regarder comme je suis transgressif. T'es en mode, oui, on a compris, il y a de la drogue, il y a des gens tout nus, super. Mais n'empêche que du coup, c'est des expériences parfois un peu intenses et un peu difficiles à soutenir. C'est pour ça que si vous allez le voir, pour le coup, Les Temps de Gisèle Vienne va passer à Cergy Pontoise le 1er et le 2 juin, si je ne m'abuse. Si vous y allez, voilà, sachez que ça peut être un peu triggering. J'étais étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de gens qui sortent pendant. Ouais, c'est ça, c'est au Point Commun qui est la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise
dans le Val d'Oise.
Et voilà, ayez ça en tête, ça parle de drogue, ça parle de tentative de suicide et le dispositif est prenant, mais du coup forcément potentiellement difficile à encaisser pour quelqu'un qui est très sensible à ça, quoi.
Trop bien. Super. J'ai trop envie d'y aller.
We'll see.
Voilà. Ça ressemble à une fin d'épisode, mais je vous en prie, ça ressemble à une fin de LMK, tout ça. Et il est temps d'aller manger, car nous avons tourné le matin.
Ah. J'ai perdu mon chien, pour la centième fois.
Mais non, regarde, elle est juste là derrière la porte. Elle fait un regard malheureux.
C'est le reflet de ton chien.
Non, c'est pas le reflet. Elles sont juste en train de se regarder à travers la porte, c'est adorable, c'est très très drôle. Parce qu'il y a une petite porte vitrée en contexte du studio, et elles sont en train de se regarder, et c'est très très drôle. Elles s'entendent vraiment très bien, elles sont très mignonnes. C'est la fin, cher LM Crado, LM Crada, LM Caribou, whatever, de cet épisode 194 de Laisse-moi kiffer. Si vous avez des anecdotes de stars, on en a plus beaucoup, envoyez-les nous sur Instagram à @laisse-moi-kiffer ou sur nos comptes personnels. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des commentaires, des vides bolos, des dédicaces, tout ce que vous voulez, ou même des photos d'écossais tout nus pour Manon, de Pokémon pour Aïda.
Ah non, n'envoyez pas de Pokémon s'il vous plaît, vraiment, c'est pas quelque chose que je recherche dans ma vie.
Bon, juste Smogogo en figurine.
Si vous fabriquez des Pokémon en pâte Fimo, vous pouvez me les envoyer, mais c'est voilà. Le seul truc de Pokémon qu'on pourrait échanger.
C'est très précis, tu vas perdre beaucoup de DM. et puis des photos de chiens pour Kaline et moi, pour qu'on voit à quel point les nôtres sont mieux. Voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés.
Merci.
Et puis des gros bisous.
Bisous.
Gros bisous.
Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.